Nous allons maintenant parler des nouvelles technologies de communication et nous sommes au téléphone avec Nicolas Nova qui est chercheur à l'EPFL. Nicolas ?
Oui, bonjour.
Pour beaucoup, les nouveaux moyens de communication comme le blog ont encore un parfum de jeu d'adolescents, mais notamment dans le milieu universitaire, c'est devenu un outil de diffusion du savoir dans un mode participatif, dans la mesure où l'on publie des recherches qui peuvent être enrichies par les commentaires de personnes intéressées par le même sujet. Et je signale que votre blog, Pasta and Vinegar, en est véritablement un exemple. Est-ce que c'est aussi une fonction que vous avez découverte en publiant ce blog ?
Alors oui, totalement, parce que à l'origine c'était pas du tout, j'avais pas du tout ça en tête en créant ce blog. C'était plus pour moi un moyen de mettre mes notes, d'avoir un peu une sorte de carnet de notes online, présent sur le web, mais c'était juste un moyen parmi tant d'autres pour partager pour avoir mes notes que je prends, des choses que je vois, que je lis, et les partager avec d'autres gens. Donc c'était d'abord pour moi que j'ai commencé par faire ça, en me disant peut-être éventuellement, il peut y avoir d'autres gens que ça peut intéresser, mais c'est surtout pour moi que je le fais. Et ensuite, au cours du temps, j'ai été contacté par d'autres gens parce qu'ils le trouvaient en faisant des recherches sur Google, sur autre moteur de recherche. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris parce que je m'attendais pas du tout à ça, en effet. Et au fil du temps, après, maintenant ça fait 4 ans que je tiens ce blog, c'est vraiment devenu un outil puissant à la fois pour rencontrer les personnes. Donc en parlant d'un sujet, certaines personnes me contactent parce qu'elles sont aussi intéressées par le thème en question, qu'elles ont un avis à proposer, donc en laissant un commentaire ou en envoyant un email. Et pour se rencontrer ensuite, donc c'est un peu comment le blog peut susciter des conversations entre des personnes. Et d'autre part, c'est un moyen de présenter un peu de l'information, des résultats de recherche, donc un outil de communication qui est, donc je disais, c'est devenu une sorte d'outil de communication par rapport au début à un outil plutôt pour classifier mes notes et mes idées.
Alors vous avez obtenu votre doctorat la semaine dernière. Est-ce que ce blog est un changement de mentalité, je veux dire, par rapport à une ancienne période où chacun était plutôt peut-être jaloux de ses recherches, ne les communiquait qu'une fois qu'elles avaient abouti. Mm-hmm. Maintenant, le principe du blog, vous tous les jours, en fonction de votre dossier progresse et vous publiez toutes vos recherches.
Ouais. Voilà. C'est exactement l'espèce de changement un peu de modèle qui était au lieu d'attendre que le produit soit fini et qu'on polisse bien les choses, on fait une publication. Moi, je suis plutôt parti du principe de toujours mettre un peu l'état d'avancement, les travaux en cours, les travaux en progrès. Donc, quand on écrit un article, de mettre, une page d'idées ou de notes déjà écrites, et puis ça permet d'obtenir l'avis d'autres personnes qui peuvent amener à reformuler un peu les choses si c'est pas forcément clair, ou si d'autres personnes ont travaillé sur le même sujet à pouvoir les intégrer. Et donc on aboutit à une sorte de modèle de recherche ouverte où avant de faire une expérience, avant de publier quelque chose, on en parle et on requiert des avis, des commentaires, et parfois ça peut transformer totalement l'idée en cours parce qu'on se rend compte que ça va pas. Donc c'est un moyen assez souple et puissant de tester des idées ou des choses qu'on veut faire.
Et on s'aperçoit en même temps en lisant les commentaires qui sont publiés, c'est que d'un seul coup vous touchez des contacts dans n'importe quel coin du globe, c'est le cas, enfin du coin, ouais. Merci. Surtout, je pense à, vous pouvez aussi bien avoir un commentaire qui vienne de Californie qu'un autre de France. C'est véritablement faire le tour du sujet qui peut être, qui vous permet d'accéder à une certaine notoriété.
Ouais, même si c'est, alors je reviens, c'est pas le but du tout, quoi. C'est pas du tout la notoriété qui est recherchée, c'est plus de pouvoir partager des idées. Et comme l'univers de la recherche est quelque chose d'assez ciblé, d'assez pointu, le fait est que le blog est en anglais, donc ça facilite forcément l'ouverture. Mais comme c'est sur des aspects assez ciblés qui n'intéressent qu'une minorité de gens qui sont dispersés un peu partout dans le monde, les technologies sont finalement, comme le blog, sont finalement un moyen de pouvoir mettre en contact des gens qui ont des intérêts très très spécialisés, très focalisés, et de pouvoir ensuite se rencontrer, parce que finalement, la plupart des personnes avec qui j'ai interagi sur des aspects très proches de ma recherche, je les ai rencontrés après physiquement, et puis avec certains, on a même travaillé ensemble.
Alors, je parlais de notoriété, il aurait été plutôt plus juste de parler de reconnaissance et d'expertise, parce que je pensais, lors d'une conférence de LIFT, là, la conférence que vous avez créée avec Laurent Haug, dédiée aux nouvelles technologies, il y avait Robert Scoble, c'est lui qui avait créé un blog aux États en Californie, et qui, grâce à son succès public, c'est Microsoft qui est venu le chercher pour lui proposer un poste très important.
Voilà, ouais. Alors, ce genre de choses arrive et bon, moi, ça m'arrive qu'on me demande de venir parler dans des conférences en fonction de, je pense, une représentation qu'on a de mon activité de recherche qui vient, je pense, à la fois par des publications plus classiques, mais à la fois par des choses qui sont publiées dans le blog. Et ça me surprend toujours du pouvoir du blog ou des informations qui sont disponibles online sur la représentation que les gens se font de l'expertise ou des intérêts d'une personne et qu'on vienne chercher pour certaines choses. C'est une forme de reconnaissance, on peut le dire, et un moyen de... Enfin, on peut le dire, on a trouvé du boulot de manière un peu détournée, on sait pas forcément, c'est juste qu'une personne a pu être au courant que tel ou tel individu est spécialiste d'un domaine via ce qui est expliqué dans le blog ou d'autres formes de publication en ligne. Il n'y a pas que le blog, bien sûr, et ça permet en tout cas pour ma part, de trouver des mandats ou des interventions, et c'est très intéressant.
Justement, en parlant de blog, on ne parle que de l'outil. Il serait peut-être plus juste de parler de moyens de mise de communication en commun, de participation. Voilà. Et là, il y avait un professeur, Jenkins, dont vous avez lu les publications, qui rejoint un petit peu ce que disait Bruno Vessière, qui est avec nous toujours.
Bonjour Bruno.
Et qui disait que cet esprit de participation va toucher l'université, puisqu'il propose un modèle d'université sans cloisonnement par discipline telles qu'elles sont actuellement, et qui permettrait véritablement, un petit peu comme on parle des consommateurs qui se créent les médias qu'ils veulent quand ils veulent où ils veulent, c'est une révolution dans l'université qui est proposée.
Alors, c'est une révolution, oui et non. À la fois, je dirais que c'est une révolution qui touche un peu plus des individus que l'institution en tant que telle, parce que de plus en plus de personnes essayent de promouvoir des modèles ouverts, que ce soit en publiant leur carnet de recherche sous la forme de blog, ou en publiant des pré-versions d'articles sous la forme de publications électroniques qui sont mises en ligne. Mais d'un point de vue institutionnel, ça reste encore... la valorisation et la reconnaissance tient toujours des articles présents dans les revues, et non pas des blogs. Donc ça, d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, par exemple, le recrutement des chercheurs se fait en fonction de la quantité de publications, et ce qui est compté comme publication, c'est pas un blog ou c'est pas ce qui est écrit online, c'est des publications, soit des livres, soit des publications scientifiques dans des revues de recherche. Mais ça veut pas dire qu'il faut oublier ce qui est publié en ligne ou les blogs. C'est plutôt que chacun a sa fonction. On peut s'attendre dans le futur à ce que peut-être des choses comme les blogs soient prises en compte, ou la reconnaissance qui en est tirée soit prise en compte. Mais pour le moment, ça reste encore, l'institution est quand même tournée plus vers les
publications classiques.
Le blog sera plus un moyen de se faire connaître, de se faire connaître et reconnaître en tant qu'expert d'un domaine. Donc c'est plus une manière informelle de faire connaître ce que l'on fait, là où on est expert, pour rencontrer des gens avec qui travailler. Et ensuite, de toute manière, moi, c'est pas parce que j'ai un blog que je fais pas d'articles académiques classiques. C'est plus le blog comme moyen de tester des idées, de réunir des gens. Et ça compte énormément aussi dans la carrière académique. Et ça le compte de plus en plus, parce que ça permet, en arrivant à une conférence, de déjà connaître d'autres personnes, parce qu'ils lisent les carnets de recherche de certaines personnes. Donc ça participe, je dirais, de manière informelle, et pourquoi pas, à terme, tendre vers ce que Henry Jenkins propose comme modèle participatif dans son livre.
Vous nous laissez un ?
Oui, Jacques Magnol allait beaucoup plus loin, parce que malgré tout, il disait, ça va casser les disciplines, et vous parliez juste de réintégrer une carrière académique, c'est-à-dire que l'idée, c'était qu'il y a s'il y a des disciplines encore à l'université, c'est parce qu'il y a des pétitions de jugement, que ce soit pour recruter ces épigones ou pour effectivement arbitrer les corporations entre elles, etc. Et là, avec ce mode de travail assez interactif et assez transversal, la vision de Jacques Magnol, c'était plutôt de proposer une université complètement décloisonnée, un peu ce que les Français avaient fait avec l'école des hautes études face à la vieille Sorbonne, ce genre de choses. Donc, il s'agit vraiment de vous-même. Voilà, vous aviez fait une thèse donc avec la conférence publique bientôt. Hein.
Oui.
Et donc, la thèse était soutenue dans un laboratoire de l'EPFL. Vous travaillez maintenant avec les gens d'architecture.
Enfin, ouais.
Vous migrez entre 3-4 laboratoires et disciplines.
Ouais, mais ça, je pense que je reste encore une sorte d'OVNI. Et il y a plusieurs personnes comme ça, mais c'est pas forcément la norme académique.
Oui, mais c'est le sens de l'écriture, ce que disait Jacques Moignol.
Ce qui est sûr, c'est que les outils comme les blogs ou les outils de publication en ligne permettent plus facilement de naviguer entre différentes sphères, parce qu'elles permettent de mettre en relation des gens avec des intérêts communs qui peuvent être transdisciplinaires ou interdisciplinaires, et d'essayer de faire des choses ensemble. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait intéressant. Je suis très content d'être dans ce genre de choses.
Alors Nicolas Nova, dans cette communauté dont nous parlons actuellement, c'est surtout une communauté académique, bien sûr, sur des sujets extrêmement pointus. Il ne faudrait pas que nos auditeurs croient que nous parlons que des blogs ainsi réservés. Il y a aussi des communautés éphémères qui se créent au sujet d'un projet. Par exemple, on pourrait parler de personnes qui s'intéressent au projet politique de Caisse unique, enfin, qui a été voté la semaine dernière, où ça peut être la volonté de favoriser l'introduction du lynx ou éviter le rapatriement d'une famille qu'on a vu récemment en Carouge. Il y a quand même une possibilité de création de communauté autour d'un sujet qui passe peut-être inaperçu. Et c'est là que je trouve étonnant, selon l'enquête de l'Office fédéral de la statistique qui a été publiée fin 2006, qui s'appelait « Utilisation d'Internet dans les ménages », ils se sont aperçus que 20% des ménages ne voient pas l'utilité d'être connectés. Il y a donc une fracture numérique énorme. Et pourtant, si l'on prend les jeunes, je crois que 93% des jeunes sont équipés de manière aussi bien électronique, on en parlait tout à l'heure, de téléphone portable et autres. Comment voyez-vous cette fracture qui existe? Il y a une fracture conceptuelle, bien sûr, parce qu'on ne voit pas à quoi ça sert.
C'est à la fois conceptuelle et surtout d'éducation, quoi. C'est parce que on n'est pas forcément, si on n'utilise pas ces technologies et si on en regarde les avis qui sont véhiculés par les médias en général, ça peut faire peur. Et c'est toujours les avis négatifs qui marquent le plus, hein, quand on lit la presse en général, sur les dangers des blogs, les dangers d'Internet, etc. Et la part de 20% que vous citiez n'est pas forcément consciente du potentiel, en tout cas social, de ces technologies. Et ça mérite de se poser la question de l'éducation, quoi. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour montrer à ces personnes que ces technologies sont pas du tout, que leur intérêt c'est pas d'isoler les gens, de les laisser dans leur coin, ou de les remplacer, d'automatiser le travail, mais plus d'être présente pour mettre en relation les gens. Donc il y a une forte composante sociale des technologies qui est pas forcément mise en valeur dans les médias, et qui serait bon de pouvoir montrer. Il y a plein d'exemples comme ceux que vous citiez, ou dans des quartiers en France, il y a un site qui s'appelle Peuplade, je crois que c'est peuplade.net ou peuplade.com, qui essaie de proposer aux gens de recréer des vies de quartier en proposant des activités, que ce soit des banquets dans le métro, ou alors des réunions de quartier, des jeux. Et ça, de prime abord, quand on parle d'Internet, on pense pas du tout à ce genre d'activité. Donc, ce qui il manque un peu de et c'est pas forcément un problème du média, mais il manque peut-être de sites ou de personnes qui véhiculent d'autres modèles et d'autres moyens, d'autres images liées à Internet et aux technologies web, pour montrer en quoi ça peut être pertinent, en quoi ça peut être intéressant, en quoi ça peut servir pour des perspectives éducatives, pour favoriser le vivre ensemble. Et de plus en plus de projets essaient de se monter autour de perspectives, notamment de vie urbaine et de changer la ville en fonction des technologies, en aidant les gens à mieux naviguer dans la ville, en essayant de faciliter des mises en contact de personnes qui ont des intérêts similaires. Et c'est cette dimension qui je trouve pertinente, les technologies pour mettre en relation des gens ayant des intérêts similaires ou non, pour essayer de faciliter un peu le vivre ensemble. Et ça, c'est... Il y a un gros travail là-dessus. Je ne sais pas quel genre d'acteur à le faire, que ce soit des associations, de l'État, l'école, mais il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là.
C'est peut-être un travail scolaire, parce que l'éducation aux médias n'est pas inscrite à la grille horaire en Suisse, à l'exception de Genève, où il y a une possibilité en 9e année. Donc c'est peut-être d'abord au niveau de l'école.
Ouais, mais le plus fascinant en termes de ces statistiques, c'est que c'est pas forcément les enfants pour qui le bas blesse, c'est plutôt certains adultes et des personnes âgées qui sont pas forcément au courant de ce genre de choses, et qui n'y ont pas accès parce que la presse classique ne véhicule pas forcément d'informations sur ce point de vue-là. Donc c'est peut-être cette cible-là qu'il faudra atteindre, et ça, je n'ai pas la réponse forcément sur les moyens à mettre en œuvre.
Alors Nicolas Novin, il y a une dernière question. Il y a sur votre blog une photo assez intéressante, puisque aussi votre spécialisation de travailler sur les médias portables.
Les médias portables, et les médias géolocalisés, voilà. Une technologie mobile, en fait.
Alors, vous avez réussi, par une photographie que vous avez prise, je crois, enfin, quelque part en ville, à montrer un digicode avec une annonce papier, c'est-à-dire c'est une alliance entre les nouvelles technologies et puis finalement montrer que le bon vieux papier posé sur le mur, c'est encore la meilleure façon de se faire voir.
Voilà, ça participe juste de mon observation quotidienne un peu de la manière dont les gens, agissent, hein, on va dire. Et je trouve intéressant de voir que des annonces pour des services divers, hein, que ce soit pour faire, je crois que en l'occurrence c'était faire des ménages chez quelqu'un, étaient posées à côté de DigiCode. Donc c'était une photo que j'ai prise à Genève cette semaine. Et ça me paraissait assez fascinant, parce que dans la plupart des technologies mobiles, de beaucoup de projets actuellement, l'idée c'est de vous donner de l'information en contexte. Suivant que vous passez à tel endroit, vous pouvez recevoir de l'information sur votre téléphone ou tout autre dispositif mobile qui serait pertinent par rapport à l'endroit où vous êtes. Et finalement, la plupart des recherches en question montrent que c'est pas forcément pertinent, parce que vous recevez déjà des tonnes de papier dans votre boîte aux lettres, vous en recevez dans votre boîte aux lettres électronique, et si le futur c'est d'en recevoir en plus dans votre téléphone toutes les 5 minutes quand vous vous déplacez en ville, c'est pas forcément souhaitable et très intéressant. Et là, ce qui me frappait, c'était de voir que finalement, une méthode très simple, c'était de mettre justement ce genre de petits morceaux de papier à côté d'un endroit où les gens regardent forcément, juste au-dessus d'un digicode, et j'utilisais ça un peu comme métaphore pour critiquer le fait que tout n'est pas forcément transposable dans un univers virtuel ou accessible via des technologies mobiles, et qu'il y a une réflexion à avoir sur... Est-ce possible? Est-ce impossible? Est-ce qu'il faut mettre en place certains systèmes? Est-ce qu'on arrive à partager la même quantité d'attention quand c'est juste une petite feuille de papier posée sur un mur, ou si c'est quand on reçoit un SMS ou des vibrations sur un téléphone? Je veux pas dire par là que c'est pas possible d'avoir un mécanisme sur un téléphone portable pour récupérer de l'information en contexte, mais au moins il y a une réflexion à avoir sur la manière de le faire. Et c'est des genres problématiques de recherche qui nous intéressent ici à l'EPFL.
Alors pour expliquer le principe, on peut prendre cette petite annonce. Il aurait été possible, avec le matériel adéquat bien sûr, que cette petite annonce puisse être diffusée de manière électronique et que la personne qui passe dans le rayon reçoive cette petite annonce sur son téléphone portable.
Voilà, ça, voilà, c'est parfaitement par divers moyens technologiques.
Alors on parle beaucoup de ces réalisations, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais on en parle beaucoup pour le Japon. Alors pratiquement, comment cela se passe-t-il? Vous déambulez dans la rue et votre téléphone n'arrête pas de sonner.
Alors ça dépend, mais bien entendu c'est possible de paramétrer un peu ce genre de système, donc ça, il y a un certain coût pour l'utilisateur. Est-ce que par défaut on peut lui paramétrer pour qu'il reçoive tous les messages possibles, et ensuite la personne peut le modifier en fonction de ses intérêts par exemple. Mais pour le moment il n'y a pas eu d'application qui a marché énormément, parce que forcément ça dérange les gens, donc au bout d'un certain temps ils enlèvent cette fonction.
Alors cette fonction actuellement est-elle utilisée principalement par les artistes pour de la recherche, et en même temps, je veux dire, des artistes et les chercheurs comme vous?
Alors, c'est utilisé, les personnes qui s'intéressent le plus à ça, forcément, c'est plutôt les gens du marketing, hein, qui aimeraient pouvoir promouvoir les messages, des offres promotionnelles, vous passez devant un McDonald's, vous recevez un SMS qui vous dit qu'il y a une promotion. Des artistes ou des chercheurs préfèrent s'intéresser à plus en quoi ce genre de choses peut servir pour moins dans des logiques mercantiles, mais plus peut-être pour, par exemple, des perspectives éducatives. Il y a des systèmes qui existent, par exemple, où vous déambulez dans la ville et il y a des petites étiquettes qui sont collées à certains bâtiments. Donc vous prenez une photo de ces étiquettes, et ensuite il y a un message, soit écrit, soit vocal, où votre téléphone vous appelle pour vous raconter l'histoire de ce bâtiment, et donc des cours d'architecture ou des projets sur l'urbanisme fonctionnent un peu dans ce genre de choses.
Il y a même plein de petites sociétés maintenant de tourisme urbain, et qui, par exemple, si vous êtes un vieux gay ou un jeune chien fou vous propose du tourisme urbain très très ciblé
voilà,
dans tel ou tel lieu
ouais.
à partir du SMS. Ouais. C'est parti depuis 2-3 ans dans toutes les grandes villes.
Ça. Ouais, et ça marche plutôt bien et c'est assez pertinent et c'est pas forcément dérangeant comme recevoir un SMS toutes les 5 minutes. Et ça part aussi plus de l'utilisateur qui déambule et qui veut obtenir des informations ciblées.
Et Nicolas Nova, en conclusion, est-ce que cette constitution possible de communauté idéale, en fonction de sujets qui nous concernent, qui nous passionnent, que ce soit par hobby ou pour le travail, qui promettent aussi une société plus juste, parce que tout le monde participe, montre aussi ses idées, c'est plus ouvert, est-ce que on parle aussi d'une nouvelle démocratie, sommes proches du paradis avec ces nouvelles technologies?
Alors, oui, si toutes les choses allaient bien dans le meilleur des mondes, si ces technologies fonctionnaient bien, si tout le monde savait les utiliser, si les infrastructures ne cassaient pas, on pourrait dire qu'on est proche du paradis, mais c'est pas le cas, parce qu'il y a toujours, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'enfin pour prendre la population, on ne sait pas forcément les utiliser, c'est qu'il y a un problème, et on ne peut pas tout résoudre par des problématiques technologiques, hein, comme l'exemple que je citais tout à l'heure, ces petits post-it. C'est juste que ça donne de nouvelles potentialités et à chaque fois qu'il y a une de ces nouvelles technologies, ça peut nous réinterroger sur ce que c'est que vivre ensemble en tant qu'humain, en tant que groupe humain et essayer de nous réinterroger sur nos propres pratiques et ensuite à éduquer d'autres personnes sur quelles sont les potentialités de ces technologies. Et pour ça, il n'y a pas de mystère, il faut essayer, tester, voir si les choses fonctionnent ou non, éduquer et surtout ne pas laisser de côté ceux qui ne les utilisent pas parce qu'il y a de bonnes raisons pour lesquelles ces personnes ne les utilisent pas, c'est que peut-être ça ne leur apporte rien ou elles ne comprennent pas et donc il faut en tenir compte.
Et donc, pour avoir des renseignements supplémentaires, Nicolas Nova, je signale votre blog, donc Pasta et Vinaigre, que dont vous pouvez trouver soit le lien sur le site de l'émission genevart.org, mais aussi en tapant tout simplement Nicolas Nova sur un moteur de recherche.
Voilà.
Je rappelle que vous êtes chercheur à l'EPFL, Nicolas Nova, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et bientôt, la conférence publique, c'est quand?
Le 30 mars, voilà. À 3h, à l'EPFL, je crois que c'est la salle CE103, si ça intéresse quelques personnes.
Voilà, merci.
Voilà. Au revoir.